Chapitre 70. Juna éjecte le disque dur de son ordinateur et débranche le câble. Il se lève de son bureau, remonte les stores et regarde le parc. Le feuillage dense des arbres cache les sentiers comme un gros nuage vert. Juna a senti que Manvir mentait ou lui cachait quelque chose lorsqu'il lui a parlé de la fouille de l'appartement de Saga. Ils ont trouvé deux des trois disques durs qu'elle avait demandé sans autorisation à la clinique psychiatrique d'Itéreux. Outre le troisième disque dur, il manquait le journal de bord du psychologue. Juna passe une main sur sa bouche. Il vient de visionner les vidéos. D'abord extrêmement confuse et agitée, Mara Makarov devient de plus en plus cohérente au fil des séances. Elle affirme d'abord que le KGB est responsable de l'enlèvement et de l'emprisonnement de sa famille. Mais lorsque par hasard, elle tombe sur la photo de Jurek Walter, elle l'identifie comme étant le capitaine du bateau. À la fin de la dernière session, sur le deuxième disque dur, Mara se penche en avant et regarde le psychologue droit dans les yeux dans une supplique. « Si vous ne me laissez pas sortir d'ici, il faut au moins que vous vous assuriez que l'inspectrice Saga Bauer comprennent que la situation est grave et que toute ma famille va mourir. » Juna repense à l'entretien de Saga avec Suzanne Yelm après le drame à Biondo Yoga. Pour s'introduire dans le psychisme de Suzanne, Jurek lui avait raconté en détail comment il avait traqué ceux qui l'avaient trahi et éliminé des familles entières afin de les punir. « Est-ce qu'il vous a menacé directement ?» avait demandé Saga. Suzanne avait alors rapporté les paroles de Jurek à propos d'un diplomate russe qui, après avoir pris sa retraite, reviendrait en Suède pour réunir sa famille et fêter son 75e anniversaire. Jurek les attendrait, les kidnapperait tous, les enfermerait dans un bunker et les enterrerait vivants l'un après l'autre. Un diplomate russe, avait répété Suzanne. Juna boit une gorgée d'eau, s'assied sur le bord de son bureau et appelle son ami Nikita Karpin sur son numéro privé. Le bureau est plongé dans le silence, tandis que la sonnerie retentit. Karpin a travaillé pour le KGB pendant 30 ans. Il a été leur principal expert en tueurs en série. Quand il a officiellement quitté le service de renseignement, il a été placé sous surveillance et s'est fait très discret. La Russie a une structure politique verticale désespérément immuable. Mais sous la surface, une lutte de pouvoir effrénée fait rage. De vrais ennemis et de faux amis échangent leur place. Des alliances contre nature se font et se défont. Et l'équilibre se modifie sans cesse par de brusques revirements. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Nikita vient d'être nommé à la tête du service fédéral de sécurité, le FSB. « Tu m'appelles encore ?» demande Karpin, sans même le saluer. « Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce que tu veux cette fois ?»« Félicitations pour ta nomination. Félicitations pour ton vernis à ongles. » Tu as des agents méticuleux, sourit Juna. Merci, Juna. Je me suis dit que tu pourrais peut-être répondre au téléphone, maintenant que tu as la tête du FSB. Commence, Juna. On ne se parle pas au téléphone en Suède? Tu sais probablement que je poursuis une tueuse en série, Mara Makarov. Oui, je me suis renseigné. C'est la petite fille d'Alexei Fyodorovitch Gourkine, qui a travaillé à notre ambassade à Stockholm pendant un certain temps. Il est retourné en Suède pour réunir sa famille et fêter son anniversaire. Et ils ont eu un accident de bateau. Après quelques pressions diplomatiques, l'enquête a été confiée à la Russie et l'identité de nos ressortissants a été classée confidentielle. Mais 9 passagers sont morts au total, dit Juna en réprimant un frisson. Bonne déduction. Continue. Il ne s'agit pas d'informations auxquelles la NOA ou la CEPO ont accès. Mais Alexei Gourkine a rendu visite à Jurek Walter à l'hôpital Lovenstromska. Je m'en doutais. Et ils ont eu une longue conversation amicale, à l'issue de laquelle Jurek lui a demandé d'exercer des pressions diplomatiques sur la Russie pour qu'elle le sorte de son isolement pénitentiaire, selon lui, en violation des droits de l'homme. Mais plutôt que d'aider Yurek, Alexeï Gourkine a conseillé à l'ambassadeur d'enterrer l'affaire. L'appel téléphonique se termine quelques minutes plus tard, aussi brusquement qu'il avait commencé, Nikita se plaignant des importuns qui lui font perdre son temps. Shuna s'assied à son bureau et pense à Mara. Elle n'était pas malade psychiquement. Elle disait la vérité. Mais comme toutes les informations sur Yurek étaient classifiées, son témoignage a été perçu comme un délire. Les médias ont largement relayé l'événement tragique survenu dans l'archipel extérieur de Stockholm, insistant sur le fait que l'on craignait pour la vie des quatre membres de la famille suédoise Makarov. Mais personne n'a jamais mentionné les passagers russes, puisque l'information était classée. 9 morts. Les 9 balles que contenait l'arme de Mara quand elle a commencé à tuer. Le grand-père, âgé de 75 ans, avait organisé le voyage en bateau, mais était resté chez lui. Atteint de la maladie de Parkinson, il supportait mal le roulis. Il avait organisé pour le soir un dîner de famille au Grand Hôtel. Peu après l'accident, Alexeï Fiodorovitch Gourkine était retourné dans sa Russie natale où il avait vécu seul pendant près d'un an, avant de se donner la mort dans une forêt de bouleaux. Le schéma lui semble familier. Juna lance une recherche sur le nom de Gourkine. Le résultat est inattendu. Il se lève précipitamment, quitte son bureau, traverse le couloir et pénètre dans la grande salle de réunion où sont rassemblés tous les documents relatifs à l'enquête. À côté des photos de Mara, s'étale aussi celle de Saga.
« Les films t'ont appris quelque chose ?»
demande Greta. « Je comprends maintenant pourquoi Mara a développé une telle haine contre la police. Et surtout contre toi, précise Peter. Pour la même raison que Saga te déteste toi et la police. » commente Manvir en baissant les yeux vers l'écran de son ordinateur. « Je ne pense pas que ce soit le cas, » répond Juna.
Nous savons tous que Saga a un traumatisme lié à Yurek Walter. Mais pourquoi est-ce que ce serait le cas de Mara Makarov ?
Interroge Greta.
Elle a lu l'article sur Yurek dans le quotidien Expressen. Et après ça, ce n'était plus le KGB qui avait enlevé sa famille, mais Yurek. Pour moi, ça ressemble à un fantasme.
J'allais justement y venir. J'ai parlé à l'une de mes sources. Et il... Toi aussi, t'as des sources secrètes ?
Ironise Peter.
Et il m'a fourni des informations, indiquant que Yurek avait toutes les raisons de s'en prendre à la famille de Mara. Ok, soupire Manvir. Yurek voulait se venger du grand-père de Mara, Alexeï Fiodorovitch Gourkine, qui travaillait pour l'ambassade de Russie à Stockholm à l'époque où Yurek était à l'isolement, dans le bunker de Löwenström.
Qu'avait-il fait ?
Demande Greta. Ce n'est pas important pour l'instant. Mais je viens de découvrir l'existence d'une ferme appartenant à la succession de son fils, Vadim Alexeïevitch Gourkine. Et elle se trouve où ? Demande Manvir. À l'extérieur de Vesteraning.
On nous a signalé un gigantesque incendie dans ce coin-là la nuit dernière, les informe Peter.
Alors je crois qu'on a trouvé la maison de Mara, conclut Juna, avant de quitter la pièce.
Saga a emprunté à Carl Speller un t-shirt avec une photo du groupe de New Wave Duran Duran qu'elle porte comme une robe pendant que ses vêtements tournent dans la machine à laver. Elle a des compresses sur une épaule et une main, des pansements sur les blessures de ses genoux et de sa cuisse droite. Ses bras et ses jambes sont couverts d'égratignures et d'ecchymoses. Elle boit un café tout en lisant sur le portable de Carl des articles sur l'incendie à l'extérieur de Vesteraning. Ses oreilles bourdonnent toujours à cause de la puissance de l'explosion qui s'est produite alors qu'il courait vers la voiture. Une pierre projetée en l'air a atterri sur le capot, laissant un grand trou dans la carrosserie. Alors qu'ils s'approchaient de Nineswegen, ils ont entendu les sirènes des camions de pompiers, et Saga s'est demandé si elle aurait survécu dans la pièce avec les palettes.
Elle a pressé Carl de se rendre aux urgences de Södersjukhuset, mais il a refusé, convaincu qu'il ferait le lien avec l'incendie. Une forte odeur de fumée et de cheveux brûlés régnait dans le coupé. Carl lui a raconté que lorsqu'il attendait dans la voiture, il avait aperçu une lumière et était allé vérifier d'où elle provenait. Il avait fouillé dans un bosquet et découvert le pick-up de Mara sous un filet de camouflage.
« Je ne sais pas si j'ai bien vu », a-t-il ajouté entre deux quintes de toux. « Mais il y avait un grand sac dans la benne et j'ai eu l'impression qu'il bougeait. J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelqu'un à l'intérieur, comme ce que tu m'avais raconté. Alors j'ai un peu paniqué. J'ai décidé d'appeler Juna quand j'ai réalisé que mon téléphone était toujours dans la voiture. J'ai couru pour le récupérer et c'est là que j'ai entendu un coup de feu. Je retrouvais plus les clés de la voiture, évidemment. » C'était comme dans un film d'horreur des années 80, tu sais. J'étais en train de fouiller dans toutes mes poches quand le pick-up de Mara a démarré. Je me suis retourné dans la cour et j'ai vu, d'un coup, le ciel devenir clair. J'ai compris que la ferme était en feu et qu'il fallait absolument que je te retrouve.
Ils se sont arrêtés dans une pharmacie de garde. Ont acheté des kits de secours pour brûlure thermique avec des compresses de gel d'eau. Puis, ils sont allés chez Carl, ont rangé la Porsche accidentée dans le garage et sont descendus se doucher. Chacun a pansé les plaies et les brûlures de l'autre. Les lésions les plus graves de Saga se situaient sur son épaule droite et sa main gauche. Il était près de 3 heures du matin lorsqu'ils ont bu un whisky autour du bar, ont avalé des analgésiques et se sont souhaité bonne nuit. Saga pose sa tasse de café et s'essuie la bouche avec une serviette en papier prise dans un fast-food. Carl fredonne tout en faisant cuire des œufs au plat et griller du pain. Il est vêtu d'un peignoir en velours bordeaux avec une doublure en soie. Il ne lui reste que quelques mèches de cheveux sur son crâne brûlé. Et le verre de sa Rolex est brisé. Elle poursuit ses recherches et trouve un article qui vient d'être publié dans l'édition en ligne du quotidien Aftonbladet à propos de la traque d'un tueur en série. Le journaliste invoque des sources fiables au sein de la police et écrit qu'un ancien agent de la CEPO, dont le nom n'a pas été révélé, est le principal suspect. Le journaliste a manifestement bénéficié d'un tuyau, mais n'a pas réussi à obtenir plus d'informations. Il insinue qu'un inspecteur de la NOA se serait laissé interviewer, alors qu'il est évident que la personne en question a simplement refusé de commenter l'affaire. En l'absence de tout fait concret, il déroule un bref historique des tueurs en série suédois, suivi de liens vers d'anciens articles similaires. Rien pour l'instant. Songe Saga. Mais elle sait que bientôt tout sera révélé. Sa photo et son nom seront partout. Après le petit déjeuner, elle met ses vêtements dans le sèche-linge, puis aide Carl à raser le peu de cheveux qui lui reste sur la tête. « Je suis désolée pour ta Rolex, » dit-elle.
« C'est pas grave, de toute façon je la déteste. Mais mes cheveux, j'avais de beaux cheveux.
Mais ça te va bien aussi comme ça, » ment-elle. Il ramasse les quelques mèches qui jonchent le sol, vide la pelle dans les toilettes et tire la chasse d'eau. Puis il retourne au bar se resservir un café.
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
demande Carl.
« Je ne sais pas. J'avais une chance d'arrêter Mara, mais je l'ai ratée. Elle était trop rapide. Je ne comprends pas comment c'est possible. On en a peut-être fini avec tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il serait peut-être temps d'appeler Juna, non ?
Demande-t-il, l'air grave.
Je sais pas. Moi, je pense que si. Elle saisit le téléphone de Carl. Va dans le musée.
S'arrête devant la vitrine où est exposé le document officiel qui signe son intégration dans le service fermé de Löwenströmska. Prend une profonde inspiration. Et lance l'appel. Elle reste immobile, le téléphone collé à l'oreille dans la faible lumière des fenêtres du rez-de-chaussée.
« Juna Lina ?»«
C'est moi. Saga. »«
C'est bien que tu appelles. »
Saga entend le vent souffler dans le portable de Juna. « Je n'ai pas fait ce que vous prétendez. Je ne suis pas impliqué dans les meurtres.
Je ne le pense pas non plus. »
Saga. sans les larmes lui monter aux yeux. Elle a du mal à déglutir. Soudain, l'acoustique change, une portière de voiture se referme et un nouveau silence s'installe.
« Je suis à Westerhaninge, » poursuit Juna. « Il y a eu un incendie dans une ferme. Et les techniciens ont trouvé des douilles qui pourraient provenir de ton Glock.
Juna, j'ai essayé d'arrêter Mara. J'ai vraiment essayé. Mais j'ai échoué.
Tu dois te rendre. J'ai parlé à Morgan et on a un accord. Je lui ai dit que tu te rendrais à moi et à personne d'autre. Je te conduirai à la maison d'arrêt de Kronebergshektet. Passera par l'entrée du personnel et on s'installera dans une salle d'interrogatoire sans que ton nom n'apparaisse dans le système.
Très bien.
Tu devras jouer carte sur table. J'aurai beaucoup de questions. Mais tout le monde est prêt à t'écouter. Tout ira bien.
Si tu le dis.
Et quand ce sera réglé, toi et moi, on continuera l'enquête ensemble.
Merci,
murmure-t-elle. Je pense vraiment que c'est la meilleure chose à faire.
Je te rappellerai pour te donner l'heure et le lieu,
conclut-elle.